RCF. L'effort consenti pour comprendre l'univers est l'une des rares choses qui élève la vie humaine au-dessus de la farce et lui confère un peu de la dignité de la tragédie, Joël.
De qui est cette phrase ? C'est de toi, Bernard ?
Non, c'est pas de moi, je te rassure, hein, mais de Steven Weinberg, l'un des plus grands physicien contemporain coloréat avec Abdussalam et Sheldon Glashow du prix Nobel de physique 1979 et qui vient de nous quitter le 23 juillet dernier à l'âge de 88 ans.
Qui était Steven Weinberg ?
Alors il était né le 3 mai 1933 à New York dans une famille d'origine juive. Il étudie au Bronx High School of Science et ensuite à l'université Cornell, d'où il sort avec un bachelor. Il y rencontre Sheldon Glashow, avec qui, bien plus tard, il partagera son prix Nobel de physique. Il vient ensuite en Europe, à l'Institut Niels Bohr de Copenhague, hein, au Danemark, pour une année d'études sous la direction de David Frisch et de Gunnar Kellen. Il rentre ensuite aux États-Unis à l'université de Princeton.
Université prestigieuse, hein, qui a connu de nombreux prix Nobel.
Ah oui, oui. Steven Weinberg va y compléter ses études de doctorat en physique.
Alors, quels sont ses sujets de recherche, du coup ?
Alors, il a travaillé sur de nombreux sujets, notamment sur les théories d'unification. On va y revenir. Mais aussi sur l'astrophysique et la cosmologie. Il est aussi connu pour son activité de vulgarisateur, aimant, comme nous, Joël, promouvoir la science auprès du grand public. En France, on le connaît surtout pour un livre qui a connu un grand retentissement en 1977, « Les trois premières minutes de l'univers » aux éditions du Seuil, mais aussi pour un autre ouvrage plus compliqué paru en 1985 chez Belin, « Le monde des particules ».
Alors pour quels travaux a-t-il reçu le prix Nobel de physique ?
Pour sa théorie électrofaible. Cette théorie montre que, sous certaines conditions, deux des quatre forces de la physique, la force électromagnétique et la force faible, sont deux aspects d'une seule et même force fondamentale, la force électrofaible. Il a, avec deux autres physiciens, reçu le prix Nobel pour la contribution à la théorie unifiée des interactions faibles et électromagnétiques entre les particules élémentaires, incluant entre autres la prédiction de l'existence du courant neutre faible.
Ça m'a l'air bien compliqué tout ça. Peux-tu nous rappeler ce que sont les quatre forces fondamentales de la physique, en restant simple, hein ?
Oh ben, je vais essayer. Oui, la première est la force de gravitation. C'est celle qui est responsable du mouvement des étoiles, des galaxies, et bien sûr, des planètes dans notre système solaire. L'attraction gravitationnelle existant entre la Terre et la Lune est aussi la raison pour laquelle la marée monte et descend.
Ah, c'est vrai, Bernard, que tu viens de visiter le Mont-Saint-Michel.
Oui, c'était magnifique d'ailleurs. Oui, cette force de la physique a été la première à recevoir une description théorique grâce à Isaac Newton.
Alors, c'est une force qui est toujours attractive et elle n'est jamais répulsive ?
Oui, c'est cela. Et si son intensité décroît lorsque les distances augmentent, elle s'exerce en théorie à l'infini. Toutefois, la force gravitationnelle est incroyablement faible si on la compare à la force électromagnétique, même si toutes les deux sont de longue portée et varient, elles aussi, avec le carré des distances.
Alors, la seconde force de la physique, c'est donc la force électromagnétique, celle de l'aimant qui attire les clous.
C'est ça. Mais contrairement à la masse, la charge électrique peut être positive ou négative. La force est ici attractive si les charges sont de signes opposés ou répulsive si les charges sont de même signe. L'électromagnétisme est responsable de l'attirance entre les atomes qui forment des molécules. En fait, tout ce qui nous entoure est façonné par la force électromagnétique.
Toute la chimie repose sur la force électromagnétique ?
Absolument. Mais la force électromagnétique, Joël, est aussi à l'origine d'un rayonnement que nous connaissons bien, la lumière, qui baigne ce studio, mais pas seulement, depuis les rayons X de la radiographie jusqu'aux ondes de RCF que vous écoutez actuellement Tout cela est dû au rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire à l'émission ou à l'absorption de petits grains d'énergie, cher Einstein, hein, les photons, par les électrons qui entourent, qui environnent les noyaux atomiques.
Les photons, ce sont les particules qui véhiculent la force électromagnétique, c'est bien ça?
Oui, ils appartiennent à la famille des bosons. La troisième force de la physique est l'interaction faible, ou force nucléaire faible.
Alors pourquoi faible?
Parce que cette force est beaucoup plus faible que la force électromagnétique. Elle est responsable de certains processus qui se déroulent au sein du noyau de l'atome, comme les désintégrations radioactives. Par exemple, lorsqu'un proton se transforme en neutron, en émettant un petit électron positif qu'on appelle un positron et un petit neutrino.
Et alors, la dernière des quatre forces, c'est laquelle?
Eh bien, c'est la force nucléaire forte. C'est elle qui donne la stabilité aux différents éléments qui nous constituent et qui unit les protons et les neutrons au sein des noyaux atomiques. Elle est beaucoup plus intense que la force électromagnétique. Sinon, les noyaux des atomes se désintégreraient du fait de la répulsion entre les protons qui sont tous de charge positive. Mais sa portée est extrêmement courte.
Alors, est-ce qu'il est possible qu'en dehors de ces quatre forces de la physique, il en existe d'autres, non encore découvertes?
Alors, c'est pas impossible. La mise en évidence de la mystérieuse énergie sombre, oui, qui représenterait à elle seule près de 70% de ce que contient l'univers, suggère l'existence d'une cinquième force. On l'a d'ailleurs parfois baptisée la quintessence. Mais certains estiment que cette énergie, que l'on tient pour responsable de l'accélération de l'expansion de l'univers, pourrait n'être qu'un des aspects rattachés à l'une des quatre forces de la physique, la plus mystérieuse de toutes, la force de gravitation.
Mmh. Alors tu as dit que Steven Weinberg avait participé à l'unification de deux des forces de la physique. C'est quoi unifier deux forces?
Alors unifier, c'est montrer que deux forces aussi dissemblables que la force électromagnétique et la force nucléaire faible obéissent fondamentalement au même mécanisme. La force électromagnétique se fait sentir à grande distance, tandis que la force faible ne s'étend pas au-delà de la dimension d'un noyau atomique. Or, l'une comme l'autre sont véhiculées, sont transmises par des particules d'échange que l'on appelle les bosons.
Ben oui, mais ce ne sont pas les mêmes bosons.
Ah non, ce sont des bosons très différents. Le photon, le grain de lumière, vecteur de la force électromagnétique, possède une masse nulle. Il est même d'ailleurs le seul à avoir cette propriété. À l'inverse, la force nucléaire faible est véhiculée par trois bosons, l'un chargé positivement, le W+, l'autre négativement, le W- et le dernier véhiculant un curieux courant neutre, c'est le Z0.
Et ils sont pas de masse nulle?
Ah non, c'est un point très important. Plus la masse de la particule d'échange, le boson, est élevé, plus la portée est courte, plus il devient difficile de propager à distance l'influence dont la force est responsable. Le photon de masse nulle peut voyager dans l'univers éternellement, tant qu'il n'est pas absorbé par un atome. Et sa vitesse est toujours dans le vide la plus élevée possible.
Donc c'est grâce à ses propriétés que nous pouvons obtenir des images des galaxies lointaines.
Exactement. Grâce aux photons, nous pouvons recevoir des informations sur les époques passées de l'univers, et ce, presque depuis le Big Bang. Les photons peuvent porter très loin les effets de la force électromagnétique. Leurs cousins, les bosons W et Z, très lourds, sont incapables d'en faire autant pour la force faible.
Alors, peux-tu nous donner un exemple?
Oui, la force nucléaire faible est responsable, par exemple, de la désintégration du neutron. Cette désintégration implique la transformation d'un quark U en un quark D. Pour ça, il faut créer un boson W. Mais où trouver l'énergie correspondant à sa lourde masse? Eh bien, la physique quantique donne une solution. Le vide quantique peut fournir de l'énergie un court instant.
Le vide fonctionne un peu comme une banque. Il autorise un découvert.
Oui, c'est un peu ça. Mais comme une banque, il en contrôle la durée. Plus l'emprunt d'énergie est élevé, plus il doit être court. Pour la force électromagnétique, créer un photon ne pose pas de problème parce que sa masse est nulle.
Donc l'empreinte peut donc durer éternellement.
C'est ça. Et le photon voyageait très loin sur des milliards d'années-lumière. À l'inverse, la très grande masse des trois bosons de la force faible limite considérablement la durée de l'emprunt. Pendant le temps imparti, le W+ ou le Z0 ne peut guère parcourir plus d'un millième du rayon d'un neutron.
Un millième, ça fait pas une grosse distance.
Oui, c'est toute la différence. Si le Z et le W avaient eux aussi une masse nulle, la force faible aurait la même portée que la force électromagnétique. Vers les années 60, trois physiciens, Steven Weinberg, Abdus Salam et Sheldon Glashow, présentent une hypothèse très audacieuse. Selon eux, la force faible et la force électromagnétique, en apparence si différentes, seraient de même nature. La faiblesse de la force faible proviendrait uniquement de la masse très élevée de ces particules d'échange, près de 100 fois celle d'un proton.
Alors je suppose que les expériences ont confirmé la théorie.
Oui, des expériences appropriées sont initiées au CERN à Genève dès 1972. On bombarde des électrons sur des positrons et augmentant progressivement la puissance, on va voir apparaître progressivement les trois bosons responsables de la force faible. Ces détections confirment magnifiquement l'hypothèse des théoriciens. Elle montre l'existence de la force électro-faible qui combine à la fois les deux forces de la physique que sont la force électromagnétique et la force nucléaire faible.
Alors, y a-t-il espoir un jour d'unifier toutes les forces de la physique ?
Alors ça, Joël, c'est le rêve des physiciens.
Je me doute.
On a élaboré une théorie dite de grande unification au début des années 80. L'idée était d'unifier la nouvelle force électro-faible avec la force nucléaire forte. Ainsi, trois des quatre forces de la physique auraient été unifiées. Seule la gravitation universelle était exclue. Elle faisait un peu bande à part.
Et ça n'a pas marché.
Alors, la théorie postulait l'existence de deux nouvelles particules d'échange dont les masses étaient encore plus élevées, presque la masse d'un virus. Mais la théorie impliquait aussi la désintégration à très long terme des protons, qui dans cette théorie ont une durée de vie très longue, 10 exposant 29 années, un 1 suivi de 29 zéros, c'est énorme. Mais ils ne sont pas éternels. Des expériences ont été menées pour observer cette désintégration, car même si la durée de vie était très longue, elle restait suffisamment brève pour être compatible avec des mesures de laboratoire. Mais ce fut un échec. Les protons refusent de se désintégrer conformément à la théorie. Et l'unification de trois des quatre forces de la physique risque fort de se faire attendre encore longtemps. Quant à unifier la gravitation avec les trois autres forces, alors là, ça reste encore un rêve inaccessible.
Il n'en reste pas moins que le grand physicien Steven Weinberg méritait bien un hommage des trublions du ciel, Bernard.
Je trouve.
Au revoir à toutes et à tous, au revoir Bernard, et à bientôt sur RCF, bien sûr.
Au revoir, Joël.